des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Arrêtez de vous virer sur une scène.
J'ai eu mon trassou!
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Tantôt, je parlais avec Michel Girard de la mise à jour économique du ministre Éric Girard. Donc, le Québec vers un déficit historique de 15 milliards, retour à l'équilibre qui risque d'être très difficile puisqu'on va traîner des déficits, évidemment, l'an prochain de 8 milliards, 7 milliards en 2022 et 2023. Donc, pour approfondir cette analyse-là, je reçois Robert Gagné, qui est directeur du Centre sur la productivité et prospérité au HEC et aussi professeur titulaire au département d'économie au HEC. Bonjour, M. Gagné.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans cette mise à jour économique d'Éric Girard? Bon, tout le monde s'entend, là, le déficit va augmenter, retour à l'équilibre, mais est-ce qu'il y a quelque chose là, qui vous a dit « Oups, ça, c'est peut-être une interrogation à soulever? »
Ben, non, pas vraiment. Je pense qu'il n'y avait pas de surprise pour grand monde, en fait. Hein. On s'attendait à peu près à ce qui était annoncé, autant du côté de l'ampleur du déficit que l'amorce d'un plan éventuel de retour à l'équilibre budgétaire, qu'on sait de toute façon très incertain parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Mm-hmm. Donc, moi, je l'ai trouvé quand même assez prudent. Puis vous savez, c'est pas dans mes habitudes d'encenser les ministres des Finances, là, mais je veux pas l'encenser, mais je pense qu'il reconnaît que tu sais, il y a personne qui sait ce qui va se passer dans 18 mois, encore moins dans 3 ans ou dans 4-5 ans. Donc, on n'est plus à l'époque là pré-pandémie là, où on peut faire des belles projections puis dire ben voilà, là, on a. Par exemple, en 2008, on a eu une récession, puis là, bon, ben, voici l'impact sur nos revenus, puis voici sur nos dépenses, puis on peut faire des belles petites projections, déposer sur la table un plan de retour à l'équilibre budgétaire, puis le mettre en œuvre, puis bon, blablabla, bla, bla, puis ça, c'était de la gestion, entre guillemets, assez facile. Là, on est dans, dans une autre...
Plus difficile.
Une autre dimension. Il n'y a personne qui le sait. S'il y a quelqu'un qui le sait, bien, qu'il le dise.
Mm-hmm. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans son analyse ce matin, il avait l'air à dire que... Parce que là, évidemment, tout le monde pose la question. Est-ce qu'il va avoir plus d'impôts? Est-ce qu'il va avoir des coupures de services? Et sa réponse à ça, c'est qu'il dit « Faut pas oublier que les Québécois sont les plus taxés au Canada. » Puis là, il mentionnait trois affaires. On a la taxe de vente la plus élevée au Canada. On a la taxe sur la masse salariale des entreprises la plus élevée. En plus, cette taxe-là sur l'imposition aux entreprises, elle part le plus tôt dans l'année que toutes les autres provinces. Et il a l'air à dire, bien, dans le fond, là, les Québécois sont relativement et pas mal taxés au Canada. Il est bien possible que, même s'il y a une décroissance un petit peu d'économie, il en demeure pas moins que les Québécois, là, ils contribuent pas mal déjà à l'économie, puis ça risque d'être encore là pour longtemps.
Oui, puis il a raison. Et c'est le grand paradoxe au Québec. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est plus taxé qu'ailleurs, mais on se dit, bon, ben qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Parce que quand on regarde l'état de nos services publics, ben force est de constater qu'il n'est pas mieux qu'ailleurs. Ils sont pas mieux qu'ailleurs, ou même dans certains cas, pire. Puis on sait exactement pourquoi. Le Québec est relativement plus pauvre. Donc, pour à peu près arriver au même niveau de dépenses que, disons, l'Ontario, dépenses publiques que l'Ontario ou la Colombie-Britannique, ben, on doit taxer plus notre économie parce que notre économie est plus petite, en toute proportion gardée. Donc, comme on est plus pauvre, on est obligé d'avoir une fiscalité plus lourde pour arriver même pas au niveau des autres provinces. Vous savez, on dépense moins ici en santé et en éducation que dans beaucoup d'autres provinces au Canada. Alors, et moi, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier qu'avant la pandémie, il y avait nos services publics avaient des problèmes, notamment en santé puis en éducation. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, la raison que je viens de mentionner, c'est-à-dire notre pauvreté relative, mais en même temps aussi le fait que notre panier de services est très, 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 très large. Alors, n'oubliez pas, non seulement on a moins d'argent, puis non seulement on a moins d'argent, mais ajoutez au fait qu'on veut offrir plus de services qu'ailleurs, avec moins d'argent. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben, on paye moins des infirmières, on paye moins des autres membres du personnel de santé, on paye moins des enseignants. Puis là, ben, toutes ces décisions-là du passé, nous sautent au plein visage, en plein visage, là, avec la pandémie. Nous, on voit les vulnérabilités, là, ils nous éclatent au grand jour. Hein, on les voit, là, directement.
Mais il n'y a jamais personne qui a voulu s'attaquer à cet état-providence-là. Tu sais, quand tu dis, il y a un panier de services pour toutes sortes de monde, et en même temps, ben, on accepte de payer évidemment beaucoup d'impôts, mais tu sais, à un moment, là, je regarde, ils croient beaucoup là, tu sais, pour l'avenir à une croissance économique importante, puis écoute, on n'est pas sûr de cette croissance-là. On pense à la transférabilité des transferts du gouvernement fédéral. Là. Ils s'attendent à ce que les transferts en santé vont être significatifs, ce qui est pas sûr encore dans les négociations. Puis il y a beaucoup de dépenses. Tu sais, au gouvernement, on le sait, là, on dit qu'on va dépenser 1 million, puis finalement, ça finit, puis c'est 10 millions, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans les projets d'infrastructure, que ce soit dans le secteur de la santé. Écoute, il y a comme... C'est la quadrature du cercle. Comment on sort de tout ça?
Ouais. Ben, d'abord, juste la question des transferts. Moi, je veux dégonfler cette ballonne-là parce que tout le monde a l'air de s'exciter avec ça. Là. Un, bon, on sait que ça n'arrivera pas, là. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral, même s'il fait comme s'il nageait dans l'argent, là, les prochaines années s'annoncent très difficiles. Deuxièmement, ce qu'on oublie souvent, là, c'est que le Québec, là, comme espace économique, là, reçoit à peu près 23% des transferts fédéraux. OK? Parce que c'est à peu près le poids de notre population dans le Canada, puis ces transferts-là sont tous faits, dans le fond, au prorata de la population. Sauf que les contribuables québécois payent 20% des... à peu près 20% des transferts fédéraux via leurs impôts fédéraux. Mm-hmm. Fait que c'est pas le pactole, cette affaire-là. Là. Mm-hmm. Quand le gouvernement du Québec demande au gouvernement fédéral d'augmenter substantiellement ses transferts, il est en train de demander au gouvernement fédéral d'augmenter les impôts de tous les Canadiens, incluant les Québécois. Mm-hmm. Alors, lui, dans le fond, il dit, moi, donnez-moi le cash, mais vous montez les impôts. Alors, voyez-vous que c'est... Alors, moi, j'ai beaucoup de collègues là, qui commandent sur des transferts, puis il faut que le gouvernement fédéral augmente les transferts, puis ils oublient cette réalité-là. La réalité, c'est que dans le fond, on demande à un gouvernement de taxer, puis on demande à l'autre de dépenser. Ça ne marche pas, ça, en politique.
Non, bien, c'est clair qu'il y a un mirage budgétaire là, qui s'en vient, pas juste à Québec, puis aussi à Ottawa. Donc,
exactement.
Donc, merci beaucoup, Robert Gagné, qui est directeur du Centre sur la productivité et la prospérité au HEC et aussi professeur titulaire au département d'économie appliquée des HEC. Merci beaucoup, M. Gagné.
Ça fait plaisir. Bonne journée.